Les pérégrinations néo-rétro-culturelles, Camille, où est-ce qu'elles nous emmènent cette semaine?
Alors cette semaine, on va partir un petit peu moins loin que d'habitude, puisqu'on va juste s'arrêter chez nos voisins, les Anglais. Les voisins d'en face.
T'as failli dire nos amis, enfin, j'ai failli dire... Attends.
Non, les nos voisins.
Okay, c'est bon. Ouais, on va chez les British.
Attention.
Et pour ça, on va commencer par un petit jeu. Si jamais je vous dis groupe de rock britannique et années 60-70...
Les Beatles.
Vous dites quoi?
Ouais. Beatles ou Rolling Stones?
Allez, Rolling Stones, ouais.
Il y a deux écoles, c'est vrai.
Vous pouvez y aller, il y en a plein, hein, pour le coup.
Ah, tu veux qu'on t'en cite beaucoup?
Ah oui, allez-y, faites-vous
des
plaisir.
Des années 60.
60-70.
Mais oui, il y en a plein, c'est clair. Mais lesquels sont britanniques et lesquels sont américains, en fait?
Ah, il y en a... Les Stones, je pensais qu'ils étaient américains,
ils sont
britanniques. Donc ils étaient bien anglais. Il y a les Sex Pistols, par exemple. Clash.
Ouais, c'est plus tard, non, les Sex Pistols?
C'est 70.
Ah ouais, ok.
On est dedans. Donc on est dans les années 75, exactement, je crois.
On ne sait pas les citer, ouais.
Voilà, on a Queen.
Oui.
On a The Who.
Il y a Led Zeppelin, c'est anglais, non?
C'est anglais.
Ouais. Led Zeppelin, c'est anglais. On a Deep Purple aussi.
Pink Floyd, peut-être.
Pink Floyd également. Black Sabbath, plus sur le registre métal, mais Black Sabbath quand même, à l'époque, il n'y avait pas de métal. U2?
Oui, les Irlandais, ouais.
Voilà. The Animals aussi. On en a quelques-uns. Des groupes qui ont pour la plupart, du coup, traversé les âges. Et pourtant, il y en a un qui ressemble à aucun autre, qui est de très loin beaucoup plus méconnu que tous ces groupes. Et malgré ça, c'est quand même lui qu'on a inspiré une bonne partie. Pour ça, on va partir en 1963. Donc dans les salles, les tontons flingueurs, en face James Bond 007 contre Dr No, dans les bacs, les Stones débarquent avec leur premier 45 tours, mais ce que l'Angleterre attend, et bah c'est les Beatles. En France, Eddie Mitchell retire pour de bon ses chaussettes noires. Comme le dit Sheila, l'école est finie.
Allez.
Grande époque.
Le noir rajeunit pas.
Ah oui, non, je vais pas vous faire rajeunir aujourd'hui.
Ça ne refait pas pousser nos cheveux.
Non.
C'est vrai, bah c'est ça exactement.
Voilà, notre histoire, elle commence avec Anthony Topham, qui surnommé tout simplement Top. C'est un jeune guitariste en herbe qui est tout juste étudiant et qui va emmener son ami qui s'appelle Keith Ralph, qui est débutant à l'harmonica et au chant, visiter le Railway Hotel. Donc le Railway Hotel, c'est un établissement qui diffuse du jazz et qui laisse les débutants jouer pendant les vacances. Voilà, c'est généralement l'occasion pour les jeunes musiciens de faire des reprises un peu plus punchy britanniques, des vieux classiques du blues ou du jazz américain à la façon des Stones ou de The Animals. Et c'est là que Top et Keith Ralph, ils vont faire la connaissance de Jim McCarty, qui est batteur, de Chris Dredja, qui est guitariste, et de Paul Samuel Smith, qui est bassiste. L'émulsion, elle est assez rapide. Les cinq jeunes, ils vont très vite commencer à faire des reprises rock de classic blues. Et du coup, bah, que demander de plus, finalement? C'est qu'il leur faut un nom, voilà, pour qu'ils puissent jouer. Et ça va être Keith Ralph qui va trouver, et il va pour ça s'inspirer du surnom d'un immense jazzman qui s'appelle Charlie Parker, pour ceux qui connaissent, qui est Yardbird, l'oiseau de cour. Voilà. Un nom qui... ils ont un nom, deux semaines de répète, et ça y est, paf, premier concert. Ils ont pas le temps, les gars.
Ah, c'était bien ces données-là, quand même.
Ouais, ils font très vite. Voilà, donc deux semaines après, les Yardbirds, ils vont jouer dans le Crow Daddy Club à Richmond. Le groupe, il est très bon, et du coup, le tenancier, qui s'appelle Giorgio Gomelski, il va leur proposer de jouer quand ils veulent au club. Voilà, c'est leur casa à eux maintenant, c'est chez eux. Et de devenir leur manager. Ça fait deux semaines.
Ah, vache.
Voilà. Voilà, du coup, au bout de deux mois, finalement, deux mois avec les deux semaines d'entraînement, les cinq jeunes musiciens, ça y est, paf, pro. Direct. Ils ont pas le temps. Sauf que ça pose un problème. Parce que quand on dit pro, le problème, c'est qu'on peut pas être pro et en même temps, on va suivre des cours à côté. C'est pas possible d'un point de vue emploi du temps. Et du coup, Top, le fondateur du groupe, il se retrouve confronté avec l'opposition de ses parents quand il leur explique qu'il va arrêter ses études pour monter un groupe de rock. Finalement, il arrive pas à résoudre le problème et du coup, il doit quitter le groupe. C'est pas de chance. Par contre, l'endroit où il va avoir de la chance, c'est qu'il va demander à un autre élève de son école d'art plastique, qui a déjà sa petite réputation locale, de le remplacer. Voilà. Normalement, ce petit élève, vous le connaissez un petit peu. Si jamais je vous dis The God ou Slow Hands, vous me dites.
Ah, j'allais dire un truc, mais.
Pas grand chose.
Ah,
j'aurais dit Andy Warhol, mais.
Non. Guitariste.
Un guitariste, pardon.
Ouais.
God and Small Hands. Mark Knopfler?
Non. Plus simple, bien plus simple. Un certain Eric C.
Ah, Clapton.
Bien.
Eh oui, c'est Eric, il était pote avec un de ses potes qui était Eric Clapton.
D'accord. Voilà.
Donc, en cette fin d'année 1963, le jeune Eric Clapton va rejoindre les Yardbirds comme guitariste, qui deviendra du coup son premier groupe à lui permettre de vivre de la musique, puisqu'il y avait déjà eu 2-3 petits groupes avant qui n'avaient pas forcément très bien tourné. L'émulsion fonctionne à nouveau et très vite, amplifiée par le génie naissant de Clapton, les Yardbirds deviennent l'un des groupes les plus intéressants de sa génération sur scène. C'est d'ailleurs l'assistant de Gomelski, qui s'appelle Hamish Grimes, qui trouvera le slogan « Les Yardbirds, le phénomène blues du moment » et le surnom de Clapton « Slow Hands » en référence au claquement de main du public à chaque fois qu'il doit changer une corde pendant le concert. Voilà.
D'accord. Donc
ça vient de là. Bref, la scène, ça fonctionne très bien et le groupe sort l'album « Five Live Yardbirds » en 1964, qui deviendra immédiatement un succès, même s'ils font toujours que des reprises de titres de jazzmen américains. Donc finalement, en 65, le groupe va signer son premier album composé qui s'appelle For Your Love. C'est un excellent succès commercial, pardon. Le groupe s'arrache de ses inspirations blues pour prendre un virage pop. Mais la décision artistique, elle ne plaît pas du tout à Eric Clapton qui décide très très vite de quitter le groupe pour retourner vers ses racines, vers sa véritable passion, le blues, quoi. Donc après avoir perdu Top, les Yardbirds doivent de nouveau faire avec le départ de Eric Clapton, et par chance Clapton il a des amis et c'est pour ça qu'il va appeler un de ses potes qui s'appelle James Patrick Pay, qui est déjà un guitariste réputé, mais James lui ça le branche pas. Du coup lui il va appeler à nouveau un de ses copains qui s'appelle Jeffrey Arnold Bay, que lui ça pourrait intéresser, et c'est le moment où ça va être à nouveau à vous de jouer. À votre avis, quel est le nom de scène de ce fameux Jeffrey Arnold Bay, déjà guitariste et ami avec les meilleurs guitaristes d'Angleterre.
Qu'on connaît.
Jeffrey.
On en a déjà parlé ici en tout cas. Enfin, moi j'en ai parlé.
Non, je vois pas.
Alors, ça, c'est son vrai nom pour le coup. Jeffrey Arnold B. Enfin, c'est Jeffrey Arnold et il manque plus que la suite de son nom.
Ah, je sais pas. Un indice peut-être ?
lui. Un indice.
Il y a un animé sur le rock'n'roll qui a un manga et animé sur le rock'n'roll qui a pris son nom.
Le nom du chien.
Oui.
Ah ouais.
Du chien.
Mais j'ai les animés en plus, j'ai les DVD.
j'ai les cassettes à la maison. Il a donné son nom au chien parce que c'est
ouais.
Jolie référence.
Ah vas-y, je l'ai sur le bout de la langue. Tu vas le
c'est
dire.
Jeff Beck. Ce monsieur qui est décédé malheureusement d'ailleurs il y a un peu plus d'un an. Du coup, c'est au tour de Jeff Beck, déjà guitariste émérite, d'entrer dans le groupe. Obsédé par l'innovation sonore et les nouvelles technologies, le jeune Jeff Beck repousse petit à petit les limites de la guitare. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il existe deux types de guitaristes dans ce monde, Jeff Beck et les autres. Et quand tu le regardes jouer, tu te dis que c'est pas une image en fait. C'est vraiment ce qui est la réalité du truc, quoi. Sous les influences du génie de Jeff, les Yardbirds vont s'envoler vers le psychédélisme jusqu'à poser les bases d'un nouveau genre plus fort et plus violent que tous ses prédécesseurs, le hard rock. Les mecs, ils ont juste inventé le hard rock, c'est tout. Voilà, c'est tranquille. 1966. La grande vadrouille est dans les salles pour une poignée de dollars et même quelques dollars de plus. Pendant que John Lennon affirme que les Beatles sont plus populaires que Jésus, Salvador nous explique que le travail, c'est la santé. Et moi, répond Dutron. Aux US, le couple Sinatra ou les Stones, une réponse, Cream, avec Clapton, bien sûr. Le bassiste du groupe, Paul Samuel Smith, décide d'arrêter pour se concentrer sur son activité de producteur. Les Yardbirds décident donc de rappeler le fameux James Patrick Pay pour le remplacer. Et du coup, vous savez à quoi on va jouer maintenant ?
Oui.
C'est quoi son vrai nom à James Patrick Pay ? Enfin, tout du moins son nom avec lequel il est connu, le nom de scène.
Ah, sans indice, c'est compliqué.
Je peux vous donner ce qui va après le P, mais ça aide beaucoup quand même.
Vas-y.
Page.
Ah, Jimmy Page.
Ouais.
Donc là, on est parti sur Led Zeppelin.
C'est ça. Donc, il va appeler du coup celui qui avait appelé à l'origine Clapton, donc Jimmy Page, qui va accepter de devenir le bassiste du groupe, le temps que Chris Dreja, qui était guitariste rythmique, se sente suffisamment à l'aise avec la basse. Et c'est comme ça que le groupe va faire le tour des plus grandes scènes de l'époque en Europe et aux États-Unis avec Jimmy Page à la basse et Jeff Beck à la guitare.
Ah oui,
mais Jeff Beck supporte... Ouais, ça va,
c'est quand même
un peu la classe. Le groupe, il a 4 ans, il a déjà enchaîné Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page.
Ouais.
Ça va, c'est pas dégueu. Jeff Beck supporte très très mal la pression et finit hospitalisé sur la fin de la tournée, si bien que c'est Jimmy qui va le remplacer à la guitare et laisser la basse à Chris Dreja.
Excuse-moi, je crois que t'as dit pression alors que tu voulais dire drogue. Pardon.
Non, pour le coup, c'est vraiment la pression de Javier, c'est pas beaucoup
la pression de la drogue, oui.
Par rapport aux autres, donc attention.
Ouais. Bah, on n'est pas, pas aux quantités de Ramones, tu vois. Genre, il leur reste encore de l'argent à la fin du mois. Ils peuvent manger, ce qui n'était pas forcément le cas des Ramones. Jeff reviendra juste le temps de quelques concerts, d'ailleurs le temps où il fera un duo de guitare avec Jimmy, un duo qui fera d'ailleurs une apparition dans le film Blow Up en fin 66. Voilà, vous pouvez retrouver ça. Juste après, Jeff Beck quitte le groupe pour se concentrer sur sa santé et ses problèmes solo. Ses projets solo, pardon.
Sur la drogue, tu veux dire, pardon.
on y revient.
On y retourne.
Ah, c'est un projet solo.
Oui, aussi. Mais il fera beaucoup d'autres choses quand même. Jimmy Page se retrouve donc seul à la tête de la machine à succès des Yardbirds. À noter que la plupart des chansons de Lair Beck sont dans le top 40 britannique. Alors, on rappelle les scores des Ramones quand même. Hein. Max, c'était 66e, je crois. Hein, si je me trompe pas. Hein. Voilà. Eux, ils sont tout le temps au-dessus de 40. Rien à faire. Malgré ça, Jimmy affirme toujours plus son style personnel sur scène, allant jusqu'à expérimenter la technique de l'archer sur la chanson Days Unconfused. Mais le succès en live, c'est fait. Par contre, en studio, bah, c'est compliqué. Quoi. Projet avorté, ligne directrice très très floue. Il faut bien dire que bah, sans Eric Clapton ou Jeff Beck aux commandes, bah, la production, c'est très très compliqué. Et Eric Clapton va s'arranger quand en 68, Keith Relf et Jim McCarthy décident de quitter le groupe pour fonder un nouveau groupe à eux qui s'appelle Renaissance. Mais suite à des problèmes de droit, le groupe du coup n'a plus le droit d'utiliser le nom Yardbirds et va donc se renommer New Yardbirds. C'est compliqué. Voilà, à une époque, ils ont fait des contrats qui étaient un peu caduques et qui étaient très compliqués.
Ils sont pas trop cassés la tête quand même.
Ouais, il fallait trouver un nom, ils n'avaient plus le droit d'utiliser ancien, ils ont rajouté New devant. ça va.
Ils auraient pu mettre Super Mega Turbo.
Ouais. Ça aurait pu. Bah, ils l'auraient peut-être fait. Hein. Mais aussitôt après, du coup, c'est au tour de Chris Dreja de s'en aller. Et celui-ci va d'ailleurs décider de devenir photographe. C'est bien aussi, ça change de carrière, mais on reparlera de lui. Le groupe est bien mince, mais le carnet de commandes, bah, il est plein et hors de question d'annuler. Du coup, Jimmy va s'empresser de faire le tour de ses contacts et il va recruter un bassiste qui s'appelle John Paul Jones, qui est multi-instrumentaliste star dans le métier. En gros, dans les années 60, vous cherchez un mec qui est capable de jouer d'à peu près tout ce qu'il y a des cordes, bah, vous appelez ce mec-là.
Ouais, ça va.
Ça va, il est un peu giga connu. Robert Plant, qui est chanteur de seconde zone à qui il manque plus qu'un bon groupe finalement. Mm-hmm. Voilà. Et John Boham, qui est un batteur du petit groupe Band of Joy.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Ouais, beaucoup de paix à leur âme d'ailleurs hein, là-dedans.
Ouais.
Pour l'anecdote, sachez qu'en 1968, Jimmy Page et John Paul Jones avaient déjà travaillé ensemble à l'enregistrement avec un certain Michel Polnareff pour La poupée qui fait non.
Ah bon.
Ouais,
mais
ouais,
qu'il
ouais,
avait enregistré en Angleterre, c'est pour ça, non ?
Bah, je sais plus où il l'avait enregistré, mais c'est-à-dire que dans La poupée qui fait non, les deux mecs qui jouent, bah, c'est Jimmy Page et John Paul Jones.
D'accord.
C'est marrant. On s'y attend pas comme ça, je m'y attendais pas non plus. Hein.
Du tout.
C'est ainsi que les New Yardbirds vont effectuer une dernière tournée en Scandinavie avant de s'éteindre et de renaître finalement sous le nom de Led Zeppelin. Voilà, un nom qui aujourd'hui signifie beaucoup, qui est ni plus ni moins pour que le plus grand groupe de rock de l'histoire pour beaucoup de gens, finalement. D'ailleurs, c'est Dreja, l'ancien guitariste des Yardbirds, qui va prendre la photo qui est au verso du premier album du groupe. J'aurais pu vous annoncer un happy end maintenant, en cette année 1968, mais non. Voilà, on va partir en 1992.
Oh bah putain.
Ah oui. La Belle et la Bête, ça c'est déjà, c'est plus récent. Ça va peut-être que plus causer déjà. La Belle et la Bête, Dracula dans les salles, Nirvana vous dit Smells Like Teen Spirit, ce à quoi Woolsey répond Paradoxal System. Ça c'est sûr, hein, Stéphane est cher, il a pas d'amis comme ça. Sur TF1, Hélène et les garçons, mais au Japon, Bishojo Senshi, Sailor Moon. Super année, 92.
Allez.
Bon, ça dépend où t'étais quand même.
Moi ouais, j'étais fan de Nirvana et de Stéphane Escher, et deux.
Ah mon dieu. J'ai toujours été plus Woolsey, moi, mais j'aime bien les deux aussi.
Ah ouais, moi, il y en a un que j'aime pas.
Ah mon dieu.
Oh putain. La force de mes parents.
C'était une époque, c'était une époque.
Ah, c'est une époque.
Bien
ouais,
sûr, bien sûr.
Ouais, c'est ça.
En 1992, les Birds sont pas morts. Dredja et Jim McCarthy décident de relancer le groupe, et cette fois, top est de la partie. Bah, il a plus ses parents pour l'emberter, hein. C'est mieux déjà. Ils font varier les musiciens jusqu'à trouver un nouveau bassiste en 1994 en la personne de John Heedan. Ils continuent les concerts à leur rythme tranquillement de vestiges vivants d'histoire du rock jusqu'en 2003 où ils sortent un nouvel album qui s'appelle Birdland. Au programme, évidemment, les immortelles chansons des Yardbirds, le tout servi par quelques invités assez prestigieux, tels que, évidemment, Jeff Beck, Joe Satriani, Slash, donc le guitariste des Guns, hein, ou encore Steve Vai.
Voilà, les gars, Michel Drucker.
Ils ont juste... Ah non, pas que plus.
Que du guitariste de légende.
Ah bah, ils ont juste invité tous les plus grands guitaristes du monde, à part Clapton, quoi, à peu près. C'est le seul qui... Alors, il a peut-être juste pas voulu venir, ou il était peut-être occupé, c'est possible aussi.
Ah, il était aux toilettes.
Finalement, ouais. Mais il est occupé, hein, c'est terrible. Hein.
C'est fou.
Très,
hein.
Très occupé.
Ouais, chacun ses occupations.
Voilà. Finalement, en 2014, McCarthy annonce pour de bon la fin des Yardbirds. Voilà, ce qui n'empêche pas le groupe de faire encore des concerts en 2015 avec une composition légèrement différente, si bien qu'aujourd'hui, bah, le groupe, il est encore considéré comme en activité. Voilà. Actuellement, officiellement, les Yardbirds, bah, c'est pas fini. Ouais. Et voilà, du coup, ce qui est véritablement le groupe Yardbirds, un ovni, qui a vu naître non pas une, mais trois légendes de la guitare, qui a créé un des plus grands sous-genre du rock, qui est à l'origine d'un des plus grands groupes mythiques de l'histoire, et qui comprend parmi ses membres nombre des plus grands musiciens de l'histoire du rock, tout en renaissant de ses cendres encore et encore. Malgré ça, The Yardbirds fait partie des grands inconnus finalement de l'histoire, même parmi les musiciens, et c'est finalement un statut qui correspond parfaitement pour l'éternel chaînon manquant du rock.
C'est beau.
Eh ben merci, parce je les connaissais pas si bien que ça, voire pas vraiment.
Bah, ils sont pas très connus en fait.
Bah, en fait, c'est connu, mais par les initiés.
Ouais,
non, mais en fait, on connaît tous les guitaristes, par exemple.
C'est ça. Tu connais tous les membres du groupe.
Mais tu connais pas leurs origines ensemble.
Ou Jimmy Page, évidemment. Mais voilà. Ouais. Et le groupe lui-même, je suis même pas sûr d'avoir déjà entendu une chanson.
En fait.
Ah, je suis sûr que tu entendrais quelque chose, tu dirais oui, je connais.
Je suis sûr.
Ouais. Mais ça fait partie des groupes où, généralement, genre, tu dis Led Zepp, tout le monde connaît, tu vois.
Ah, oui,
genre,
oui,
c'est
oui.
rare de tomber sur quelqu'un qui a jamais entendu parler de Led Zeppelin. Et Yardbirds, qui pourtant. Littéralement, genre le rang zéro de Led Zepp est passé complètement à la trappe au fur et à mesure des années, a complètement disparu. Alors que bah, finalement, le rang un peu zéro de toute la trame rock qui va naître de Clapton, qui va naître de Jeff Beck, bah, c'est lui quoi.
C'est beau. Mais moi j'aime bien, je l'avais défini comme ça ta chronique, Camille, c'est nous faire découvrir ou redécouvrir en fait des gens très connus, mais que peu de gens, enfin en tout cas là pour le nom du groupe, que peu de gens vont reconnaître, mais quand on rentre dans le détail, en fait si.
C'est ça.
C'est un peu
c'est
ça.
La partie inconnue de l'histoire connue.